Bonjour, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin et pour la journée, nous l'espérons, parce que une journée très intéressante et surtout d'actualité internationale se présente aujourd'hui avec de nombreux professionnels donc de terrain. Par contre, j'ai vraiment l'immense regret de vous annoncer, et je viens de l'apprendre, le désistement de Ronnie Broman, qui a eu un problème qui l'empêche d'être avec nous, problème dans son entourage qui l'empêche d'être avec nous ce matin. Donc, sans tarder, je laisse la parole à notre présidente de session, Madame Denise Houphouët-Boigny, qui est ambassadrice donc de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris. Denise,
merci. Merci, Madame. Mesdames et Messieurs, nous sommes dans le cadre de la deuxième journée du colloque international de la chaire Savoir contre pauvreté, intitulé Politique étrangère et diplomatie de la santé mondiale. La session de ce matin est axée sur la question de la santé dans les pays en situation de conflit ou de post-conflit. Ces situations sont celles dans lesquelles les populations sont vulnérabilisées et leurs droits les plus élémentaires souvent bafoués. Il s'agira de réfléchir, et je cite Madame le professeur Dominique Kérouédan, que je voudrais remercier de nous avoir associés à cette réflexion. Il s'agit donc de réfléchir sur ce qui pourrait faciliter le respect du droit international et des conventions de Genève en vue de faciliter l'accès des populations des pays en guerre et des pays en situation de post-conflit à une aide humanitaire et à la préservation de leur santé dans un environnement de plus en plus violent à l'encontre des personnels soignants. Mesdames et Messieurs, c'est à dessein que les organisateurs du colloque ont décidé ce matin de faire un clin d'œil à l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On ne peut en effet évoquer cette organisation onusienne sans penser au préambule de son acte constitutif. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Pour un bref rappel historique, je dirais que c'est en septembre 1921 que l'Assemblée de la Société des Nations approuve la création de la Commission internationale de coopération intellectuelle, composée à l'origine de 12 personnalités indépendantes et de dimension universelle dans le domaine de l'esprit, au nom de leur savoir et de leur probité scientifique, personnalités parmi lesquelles on peut citer Albert Einstein, Paul Valéry, Marie Curie, Sigmund Freud, etc. Cette commission, chargée de l'étude des questions internationales de coopération intellectuelle, est alors présidée par Henri Bergson, lui-même professeur ici au Collège de France, titulaire de la chaire de philosophie grecque. La Commission internationale de coopération intellectuelle devient en 1925 l'Institut international de coopération intellectuelle, qui se fondera en 1946 dans l'UNESCO, elle-même créée en 1945, en lui transmettant ses savoirs, ses avoirs et ses archives, je dirais aussi ses savoirs. La création de l'Institut international de coopération intellectuelle est liée au sentiment de catastrophe qui a saisi les esprits après la Première Guerre mondiale. L'ampleur et la durée des combats, les millions de morts produits par l'affrontement de nations pourtant civilisées, l'utilisation de la technique pour tuer en masse, ont montré qu'une époque différente devait s'ouvrir. Des siècles d'éducation, de culture et de science n'avaient pas empêché cette barbarie. Il fallait donc s'interroger sur la crise profonde de l'humanité et agir après avoir fait des analyses et imaginé des actions nouvelles et adéquates. Les objectifs de l'Institut international de coopération intellectuelle restent ceux de l'UNESCO après la Seconde Guerre mondiale et demeurent aujourd'hui avec une évolution cependant. L'organisation avait pour objectif de départ de maintenir la paix entre les États. Actuellement, ce souci demeure, mais l'UNESCO cherche à mettre en place des moyens permettant de sauvegarder la paix à l'intérieur des États et se tourne ainsi vers le développement. Pour l'organisation, en effet, la paix et le développement sont les deux faces de la même pièce. Bâtir la paix implique, en effet, de donner l'espérance à tous, surtout aux plus pauvres, sur le plan économique, avec des budgets consacrés à construire et non pas à tuer et à détruire, mais aussi sur le plan moral et sur le plan éducatif. Dans ce laboratoire d'idées, une réflexion prospective est menée afin de repérer les grands débats du moment et les enjeux qui structureront les débats de demain. L'UNESCO propose des débats et s'implique dans des actions relatives à la culture de la paix, à la gestion des conflits, à l'éducation en situation de conflit, à la question du genre dans les conflits et à la consolidation de la paix dans les périodes post-conflit, mais aussi dans ce qui concerne la santé. Il est alors possible d'évoquer, par exemple, tout ce qui a trait aux sciences de l'eau et à l'accès à l'eau potable quand on sait que 6 000 enfants meurent chaque jour à cause de l'eau, à la bioéthique, à l'éducation, à la prévention au VIH-SIDA. Les préoccupations de ce colloque et celles de l'UNESCO, mesdames et messieurs, sont en phase avec aujourd'hui une responsabilité, celle de préparer ce qui devra être proposé pour l'après 2015, date butoir des objectifs du millénaire pour le développement, quand on sait que ces objectifs ne seront pas atteints.